Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec Bertrand. Non, pas du tout, Bertrand, c'est tout à l'heure, pardon, avec Mathieu, Mohamed et Patrick. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Pierre sera de retour demain et on l'embrasse. Patrick, votre édito ce soir.
La mort en Ukraine d'un journaliste de BFM TV, Frédéric Leclerimov, tué par un bombardement russe alors qu'il escortait un convoi de civils en fuite.
On en parle avec la porte-parole de Reporters sans frontières, Pauline Adas-Mevel, et avec l'ancien secrétaire général adjoint de l'ONU chargé du maintien de la paix, Jean-Marie Guéhenno. Bonsoir à tous les deux, merci de votre présence ce soir. Mohamed, votre story.
Pour illustrer les multiples dysfonctionnements qui ont eu lieu samedi soir lors de la finale de la Champions League entre le Real Madrid et Liverpool, on est revenu à Saint-Denis cet après-midi. On a retracé le trajet effectué par les supporters de Liverpool avec le maire de la ville, Mathieu Hanotin. Vous allez découvrir ce soir les trois points de tension qui ont entraîné tous ces problèmes.
Et on en débattra avec nos invités, David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, et maître Pierre Barthélémy, avocat de plusieurs groupes de supporters français. Il était missionné justement pour s'assurer que ça se déroulait bien samedi au Stade de France. Il nous dira ce qu'il y a vu, Mathieu, dans votre 5 sur 5.
Je vais vous parler, entre autres sujets, de cet entarteur qui a voulu jeter une tarte à la crème chantilly sur la Joconde. La Joconde va bien puisqu'une tarte à la crème ne brise pas une vitre blindée.
Voilà, je vous dis que la Joconde va bien. C'est fort heureux, mais on reviendra sur cet épisode, moi, qui m'a complètement laissé totalement ahuri.
Avec quelques images, un homme déguisé en vieille dame sur un fauteuil roulant. Enfin, très étonnant, cette histoire.
Dans le 5 sur 5 de Mathieu, nos invités du dîner, Joe Wilfried Tsonga, dont les adieux à Roland-Garros nous ont émus, mais aussi Riyad Sattouf qui nous passionne avec les histoires d'Esther, et Bruno Patino qui fête les 30 ans d'Arte. C'est pile ce 30 mai 2022. On se souvient du lancement en 1992. Rendez-vous juste après 20h. Mais d'abord, Frédéric Leclerimov couvrait pour BFM TV la guerre en Ukraine. Il est mort aujourd'hui, tué par un éclat d'obus alors qu'il se trouvait à bord d'un bus humanitaire.
Le groupe Altice Media a l'immense douleur de vous annoncer la disparition de l'un des nôtres, Frédéric Leclerimov, reporter, journaliste reporter d'images. Il a été tué aujourd'hui près de Lysychansk dans la région de Severodonetsk en Ukraine où il couvrait bien sûr pour BFM TV la guerre en cours.
Patrick, Frédéric Leclerimov, mort lors d'un reportage sur un convoi humanitaire.
Voilà, c'est important de le souligner. Ce journaliste, reporter d'images de 32 ans, n'était pas sur le champ de bataille. Il participait à une évacuation de civils à bord d'un bus dans l'est du pays. C'est à bord de ce véhicule blindé qu'il a été touché par un éclat d'obus, un morceau de métal qui a traversé le pare-brise et l'a mortellement blessé au niveau du cou. Il a été tué par un bombardement russe, accuse la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui était présente en Ukraine aujourd'hui. Catherine Colonna qui dit...
Cette journée est malheureusement endeuillée par ce drame. Ce drame qui est en réalité un crime, puisque un convoi d'évacuation a été attaqué et un journaliste qui faisait son métier a été tué.
Ce drame est un crime, dit Catherine Colonna, qui exige une enquête transparente dans les meilleurs délais pour faire toute la lumière sur ce drame. On sait que depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les civils sont des cibles, qu'ils sont délibérément visés par l'armée russe, y compris lors de leurs évacuations des zones de guerre par convoi humanitaire. C'est justement de cela dont témoignait Frédéric Leclerimov lors de son dernier reportage diffusé ce matin sur BFM TV avec son binôme reporter Maxime Brandstetter sur la route où ils ont été frappés quelques heures plus tard.
On se trouve sur la route qui mène de Bakhmout à Lysychansk, la ville voisine de Severodonetsk. C'est cette route, on y est ici avec des militaires qui nous protègent parce que cette route, on ne peut plus l'emprunter. Les Russes, en fait, sont juste autour. Ils tirent sur cette route, non seulement avec de l'artillerie, mais aussi avec des chars et des snipers. C'est pour ça qu'on a pu avancer qu'un peu avec ces militaires. Cette route, elle permettait d'approvisionner Severodonetsk. Elle est maintenant coupée par les Russes. Ça fait partie de leur stratégie pour asphyxier la ville. Pour l'instant, il reste des itinéraires alternatifs. Mais aller à Severodonetsk, c'est de plus en plus compliqué.
Les Russes qui bombardent donc les convois de ravitaillement et les convois de civils, les convois humanitaires pour évacuer les civils. On l'a vu autour de Mariupol, c'est aussi ce qui se passe dans le Donbass, à l'est du pays. Maxime Brandstatter, qu'on vient de voir, lui était légèrement blessé à la jambe. Il doit être rapatrié rapidement. Frédéric Leclerimov est le 8e journaliste tué en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Le 2e français après Pierre Zakrevski, un franco-irlandais de 55 ans qui travaillait pour la chaîne américaine Fox News, qui a été tué, on s'en souvient, au tout début de l'offensive russe, et le premier d'une grande rédaction française. Intense émotion cet après-midi à BFM TV, où une cellule psychologique a été mise en place et où le directeur général de la chaîne, Marc-Olivier Fogiel, est venu en plateau exprimer le chagrin suscité par cette disparition.
La rédaction est en deuil ce soir. Ça fait 3 mois que des équipes de BFM TV et de RMC sont sur le terrain. 3 mois qu'avec Hervé Bérou, Céline Pigalle et Nicolas Maru, on dort mal la nuit. Frédéric, ce qu'on peut vous dire, c'était pas une tête brûlée.
Il avait fait un stage commando de préparation aussi.
Absolument, et il pesait chaque minute de sa mission avec Maxime, avec Oksana. Ensemble, ils décidaient de où ils allaient, où ils n'allaient pas. Ce soir, ce qui domine chez nous, c'est évidemment... plus que la tristesse, le chagrin, mais aussi une forme de fierté à partager tout ça avec les téléspectateurs. On va évidemment continuer à le faire en hommage à Frédéric.
Marc-Olivier Fogiel, donc cet après-midi, et beaucoup de réactions politiques de tous bords cet après-midi. Le premier message a été celui d'Emmanuel Macron qui a annoncé la mort du journaliste à celles et ceux qui assurent sur les théâtres d'opération la difficile mission d'informer. Je veux redire le soutien inconditionnel de la France, a tweeté le président de la République.
Pauline Adas-Mevel, quand la ministre des Affaires étrangères dit que c'est un drame qui est en réalité un crime, vous êtes d'accord avec ce constat? C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a une volonté des Russes d'empêcher les journalistes de travailler et de les viser sciemment, volontairement?
En fait, quand on regarde ce qui se passe depuis le 24 février, on a donc 8 journalistes qui ont été tués dans l'exercice de leur mission, de toute nationalité, ukrainiens, russes, américains, lituaniens, etc., français, franco-irlandais. Il est clair que 7 d'entre eux ont été visés sciemment, visés parce qu'ils rapportaient des informations, parce que surtout au début du conflit, ils allaient apporter des informations sur ce qui se passait, sur les exactions qui étaient commises partout dans le pays, et surtout de ce que les Russes cherchaient à dissimuler. Donc ce sont des cibles. Il n'y a absolument aucun doute sur le fait que moins ils sont nombreux et moins ils peuvent rapporter ces informations, et mieux c'est. Ils étaient tous identifiés.
Et on vient de voir Maxime Brandstetter, on le voyait à l'antenne, avec un gilet pare-balles presse, un casque, très facilement identifiable.
Quand ce ne sont pas les véhicules qui sont identifiés, c'est même à se demander si ce n'est pas plus dangereux. Donc ce sont des cibles très nettes, très claires, et qui connaissent, sont des journalistes aguerris, hein, comme Frédéric Leclerimov, sont des journalistes qui continuent d'informer courageusement. On le voit dans ce reportage, qui prennent la mesure de ce qui se passe. Nous sommes protégés, nous sommes... Donc, ce ne sont pas des têtes brûlées, mais il n'y a absolument aucun doute. Il y a eu d'autres journalistes qui sont morts sur le terrain, soit parce qu'ils combattaient, soit parce que tout simplement ils vivaient leur vie de civil. C'est révoltant parce qu'il n'y a plus de limite. En fait, les autorités russes sont dans cette éradication du journalisme sur leur territoire, mais aussi à l'extérieur, et n'hésitent plus à commettre ce genre d'exactions, d'actes absolument odieux. On rappelle que quand même Frédéric Leclerimov avait 32 ans, un début de carrière épouvantable.
Jean-Marie Guéhenneau, c'est un véhicule blindé d'évacuation, un convoi humanitaire qui a donc été visé par l'armée russe, dans lequel se trouvait notre confrère de BFM TV, Vladimir Poutine, et l'armée russe continue de viser les civils dans le mépris le plus total du droit international, qu'ils soient journalistes ou des civils ukrainiens.
Oui, le droit international humanitaire aujourd'hui est violé tous les jours en Ukraine. Moi, cette guerre me fait de plus en plus penser à la guerre de Syrie, en fait. Avec des sièges, on affame la population, avec ces frappes volontaires sur les civils, avec cette volonté de terroriser pour faire bouger les populations. Il y a une sorte de... Enfin, aussi dans la propagande, quand on parle de dénazification, c'est une manière de déshumaniser l'adversaire et de permettre, en fait, ensuite, tous les crimes.
Une guerre sans merci qui s'attaque donc aussi à la liberté d'informer. Les autorités russes qui ont communiqué sur la mort du journaliste français en ces termes, je ne le qualifierai pas de journaliste puisque toutes ses activités étaient probablement d'un autre type. Il peut être qualifié de mercenaire étranger. Autrement dit, cet officier de la milice populaire de la République de Lugansk accuse notre confrère d'avoir livré des munitions sous couvert de sa carte de presse et semble ainsi justifier ce qui s'est passé. Le message est clair, les journalistes sont des ennemis.
Absolument, et la menace est très claire. Ce sont des accusations épouvantables, ne serait-ce que le fait qu'ils soient trois à avoir été touchés. Donc ces deux confrères sont blessés et soignés, montre bien qu'il s'agit d'accusations totalement farfelues. Mais c'est très grave, effectivement, ils retournent le discours et les journalistes sont considérés comme des ennemis vraiment de ce discours qu'ils veulent tenir. C'est extrêmement ennuyeux, tout simplement parce que ce conflit se poursuit. Au départ, on a décompté 2000 accréditations de journalistes étrangers sur le terrain, puis 3000, ce qui est absolument énorme. Ils sont toujours nombreux, ils sont moins nombreux, mais il faut absolument continuer de raconter ce qui se passe.
Oui, parce que le but des Russes, c'est qu'ils quittent l'Ukraine, qu'ils quittent les lieux du conflit.
Absolument, qu'ils partent, qu'ils... Et surtout, ce sont des actes d'intimidation très forts, ça dissuade. C'est ultra choquant pour des journalistes des rédactions françaises ce soir, mais c'est pour toute une catégorie de journalistes qui sont nombreux à s'être rendus sur place. 15 heures de voiture, l'Ukraine, c'est accessible, et donc ça a permis à de nombreux journalistes d'aller sur place. C'est un acte d'intimidation, un acte qui vise vraiment à dissuader de continuer à se rendre sur le terrain. Et on voit que les plus grands journalistes ont été... Vous avez rappelé qu'un journaliste de Fox News a été touché et tué dans une des attaques. Donc, c'est, en fait, c'est une des menaces très claires.
Patrick oui.
Non.
Emmanuel Macron assure le soutien inconditionnel de la France à la presse. Comment faire en sorte que... Comment assurer au maximum la sécurité des journalistes sur place ?
Alors, ce que à Reporters sans frontières, et nous ne sommes pas les seuls à avoir mené des actions, mais on a monté, dès le début du conflit, un centre de la liberté de la presse à Lviv, dans l'ouest du pays, ce qui a permis de distribuer tout de suite des gilets pare-balles, des casques, mais on a également dispensé des formations en soutien psychologique, des formations numériques qui permettent aux journalistes de savoir d'éviter en fait quelques pièges, quelques écueils. Et puis, on a réussi à ouvrir ce deuxième centre de la liberté de la presse à Kiev, qui est évidemment au centre du pays et plus central, sont des formations qui sont hyper importantes parce que ça permet à ces journalistes d'abord de se rencontrer, de poser les questions nécessaires, de se sentir épaulés, de faire des pauses. Ils restent parfois plusieurs semaines, donc ça c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous apportons aussi notre aide à des journalistes russes. Ils sont des centaines à demander à s'exiler en Europe, à avoir besoin de visas. Donc ce sont aussi pour les journalistes ukrainiens des besoins tout simplement... pratique. Il faut rappeler qu'il n'y a plus de médias normaux, en tout cas qu'il n'y a plus de journalisme classique et qu'aujourd'hui tout est habité par la guerre sur le terrain, donc c'est aussi une précarisation de tous ces journalistes. Il faut y songer parce qu'ils ne peuvent plus exercer, donc ils ne peuvent plus vivre et manger aussi.
La disparition de Frédéric Leclerc-Imoff rappelle, s'il en était besoin, la dureté, la violence de cette guerre entrée la semaine dernière dans son troisième mois. Et avec quelle perspective, Jean-Marie Guéhenno ?
Malheureusement, de moins en moins de perspectives, parce que plus il y a de morts, plus il devient difficile, en réalité, d'avoir une négociation, comme on dit. On voit bien qu'il est essentiel que la Russie ne sorte pas victorieuse de cette guerre, parce que ça voudrait dire, ça serait un danger pour le monde entier. Ça voudrait dire que si on a une bombe atomique, si on a la bombe atomique, on peut, à l'abri du chantage nucléaire, se lancer dans des agressions conventionnelles sans risque. Donc l'agression conventionnelle ne doit pas payer. Mais une fois qu'on a dit ça, la grande difficulté, c'est comment arrêter les choses, parce que si on imagine, par exemple, que demain, l'Ukraine arriverait aux frontières, enfin aux frontières, à la ligne de cessez-le-feu, qui était celle du 24 février, avec déjà une partie de l'Ukraine occupée par, par des pseudo-républiques contrôlées par, par la Russie. Si on arrivait à cela, on y arrivera avec, après beaucoup de morts. Comment est-ce que dans ces conditions, il pourrait y avoir une vraie paix? Je pense que le plus vraisemblable, c'est plutôt des pauses que des vrais accords. Parce que les Russes, de leur côté, ont investi énormément aussi dans cette guerre. Ils ont perdu beaucoup de monde. Donc, si demain, Poutine devait se retourner vers les Russes et dire « Bon, ben, on a essayé, on a perdu 15 000 personnes, 20 000 hommes, enfin, je ne sais pas.
Mais on a annexé le Donbass. Il peut, c'est le chemin qui est en train d'être pris aujourd'hui par l'armée russe, avec une intensification des combats, une conquête des deux régions qui constituent le Donbass, c'est-à-dire l'est de l'Ukraine, et qui pourrait demain, avec un arrangement, un accord factice avec les dirigeants des républiques autoproclamées, être annexé à la Russie. On peut imaginer cette perspective-là. Est-ce que ça suffirait à Vladimir Poutine pour proclamer l'arrêt des combats à ce moment-là? Je me tourne vers vous.
Vous qui l'avez rencontré, hein, Vladimir Poutine.
Oui, j'ai rencontré
Poutine
plusieurs fois. Je pense que la première objection, c'est comment est-ce que Zelensky, comment est-ce que le président ukrainien pourrait
accepter
et pourrait convaincre son peuple que bon,
on
renonce au Donbass, que à chaque offensive russe, on perd un petit peu et on attend la prochaine. Je crois que c'est la première difficulté politique. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas seulement le Donbass aujourd'hui, il y a Kherson, il y a toute la zone près de la mer Noire. Et là, on voit bien que pour l'Ukraine, si l'Ukraine devait devenir un pays enclavé, c'est toute la question d'Odessa, à ce moment-là, l'Ukraine est un État croupion que la Russie peut étrangler à tout moment. Donc je crois que pour les Ukrainiens, et je dirais pour l'Europe, accepter ce genre de compromis est très dangereux parce que ça récompense l'agression et c'est une situation profondément instable. Et pour la Russie, dans ces conditions-là, il n'y aurait pas de levée des sanctions. Donc la Russie, elle continuera sur le fond à reculer, parce que les sanctions, c'est des pertes de recettes en devises, mais c'est surtout aussi des pertes d'importation. Toute l'économie russe dépend de composants, de produits qui sont importés d'Occident. S'ils ne les ont pas pendant des années, ça va être, avec le recul démographique, avec tout ce qu'a déjà la Russie, ça va être une accélération de son déclin. Donc, je crois qu'on est dans une situation qui va rester durablement instable. L'idée d'un conflit gelé où à un moment on dit bon, on a perdu beaucoup de monde, on s'arrête là, je ne crois pas qu'on en est là pour le moment.
Et si on voulait avoir la preuve qu'on est encore très éloigné d'un compromis ou d'un esprit de négociation, il faut avoir eu sous les yeux cet après-midi les déclarations d'un responsable, en l'occurrence du ministre de la Justice d'une des républiques autoproclamées de l'Est de l'Ukraine, à propos des soldats de l'usine Azovstal. Ils sont, vous savez, 2300 à s'être rendus. Ils sont en territoire ukrainien. Ils n'ont pas été apportés en Russie. Et Kiev, via le président Zelensky, espère qu'il pourra les échanger contre les prisonniers russes. Ouais. Ce ministre de la Justice a déclaré cet après-midi « Ce ne sont pas pour nous des prisonniers de guerre, ce sont des criminels de guerre parce que ce sont des néo-nazis et donc ils risquent la peine capitale. Ils seront jugés, ils pourront être condamnés à mort. » Et on imagine la détermination que peuvent...
2300 combattants.
2300, ça concerne 2300 personne. Je ne sais pas si ces menaces seront suivies d'exécution.
C'est jeter par la fenêtre tous les fondements du droit international. Et qui, même pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été plus ou moins respecté. Les prisonniers de guerre, on ne les exécutait pas.
Ils ont parfois été affamés.
Mais ce n'était pas la règle. Et ce n'était pas annoncé, en quelque sorte, publiquement. Donc, si les Russes et leurs marionnettes du Donetsk et de Luhansk font ça, là on est vraiment dans un monde où il n'y a plus
de règles,
plus aucune règle.
Pour la première fois depuis le début du conflit, un membre du gouvernement français s'est rendu en Ukraine. La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui était à Kiev, puis dans la ville martyre de Boutcha, où elle y a condamné les exactions commises.
Il faut se dire que ça ne devrait pas arriver, qu'il ne faut pas que ça recommence. Et leur souhaiter le meilleur et que la paix revienne le plus vite possible. C'est leur souhait, vous l'avez entendu. La France est à leur côté, avec ses amis, ses alliés. Elle va faire tout son possible pour que la paix revienne.
Catherine Colonna qui assure encore que la France va renforcer ses livraisons d'armes à l'Ukraine et fera tout son possible pour que la paix revienne. Est-ce que la France et l'OTAN en général pourraient faire plus ?
Bon, alors le calibrage des armes qu'on doit donner, ça c'est une question difficile. La distinction entre armes offensives et armes défensives, pour moi, elle n'a pas de sens. Parce qu'une arme peut être offensive ou défensive selon l'usage qu'on en fait. J'ai entendu que le président Biden aurait dit que...
Il ne donnera pas des lance-roquettes à l'Ukraine qui pourra atteindre la Russie,
oui,
hein, je crois.
Enfin, ou de longue
ça,
portée,
oui.
Quelque chose comme ça. Ça ne me paraît pas une déclaration très, très pertinente, en réalité. Je comprends très bien que les Américains et nous-mêmes, nous disions aux Ukrainiens, nous ne vous soutiendrons pas pour une offensive, vous essayeriez de prendre du territoire en Russie. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que les Ukrainiens soient fous pour essayer de répéter l'expérience de Napoléon, hein, qui n'a réussi ni à Hitler, ni à Napoléon, ni à personne. Donc personne n'a envie d'envahir la Russie. Mais quand on se défend, il faut avoir la panoplie la plus large possible d'armes. Hier, le ministre Lavrov disait que la Russie était venue en aide sur la base de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire la légitime défense. On pourrait lui retourner l'argument, parce que il s'est tiré par les cheveux dans le cas de la Russie, parce que si on vient si on vient aider Donetsk et Luhansk, on n'a pas besoin d'envahir le reste de l'Ukraine, donc l'argument ne vaut rien côté russe. Côté occidental, il a une vraie valeur. Au nom de l'article 51, en dehors de toute appartenance à l'OTAN, on pourrait tout à fait, si on le décidait politiquement,
intervenir en Ukraine. Au nom de la légitime défense.
Je crois qu'on a raison de ne pas le faire, parce qu'on est face à une puissance nucléaire et on ne veut pas risquer une escalade nucléaire. Donc on a raison d'être prudent, mais faire le maximum pour que l'Ukraine puisse revenir au moins aux frontières qui étaient là le 23 février, à la ligne de cessez-le-feu, il ne faut jamais dire le mot frontière, pardon, je crois que c'est absolument nécessaire et c'est une bonne chose pour la sécurité européenne, parce que le message qui doit passer, c'est que l'agression ne paye pas. Ni en Europe, ni nulle part. Si elle paye là, c'est un signal très dangereux pour le reste du monde. Pensez à Taïwan, pensez à toutes sortes de situations de ce type, où de grandes puissances peuvent envahir leurs voisins, surtout si elles ont l'arme nucléaire, en se disant que leur territoire, lui, restera intact, et qu'à l'abri de cette dissuasion nucléaire, on fera ce qu'on veut.
Mohamed.
Une première hier en Russie, un moment fort, un élu russe qui réclame ouvertement la fin de la guerre. Cela s'est déroulé lors d'une réunion de l'Assemblée locale de la région de Primorié. Regardez.
Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. Почти три месяца, прошедшие с
начала... Леонид Юрьевич, раз, мы обсуждаем повестку дня.
...что военным путем достичь успеха невозможно. Продолжение военной операции приведет к неминуемому увеличению количества погибших и раненых военных случаев. Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации.
Юрьевич, я вам делаю предупреждение.
Мы требуем прекратить...
Вы вышли из повестки.
Les propos sont très forts de la part de cet élu, Jean-Marie Guéhenno. Est-ce le signe d'un changement en Russie quand on sait que certains élus de cette population russe ne partagent pas les positions, l'opinion de Vladimir Poutine ?
Je crois que la stratégie du pouvoir russe toutes ces dernières années, ça a été plutôt de faire en sorte que la population se désintéresse de la politique. Ça n'a pas été de la mobiliser sur un projet politique, c'est de la désintéresser. Mais dans cette guerre, plus elle dure, plus cette position devient intenable, plus il devient nécessaire de mobiliser la population. On a vu comment Poutine, on avait annoncé, certains pensaient qu'il allait décréter une mobilisation générale au moment du 9 mai. Il ne l'a pas fait parce que justement, il sait que cette bascule d'un pouvoir autoritaire, dictatorial, qui s'appuie sur l'indifférence de la population à un pouvoir qui s'appuierait sur la mobilisation de la population n'est pas facile à opérer. Et je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce que montre cette réunion au fin fond de la Russie, c'est qu'effectivement, peu à peu, la guerre touche tout le monde. Et donc, il va y avoir une certaine crise morale en Russie, parce que je pense aussi que pour des Russes, quand ils combattaient des Afghans, c'était un autre monde. Et on a vu comme le fait d'avoir des pertes russes en Afghanistan a tout de même contribué à la crise du régime. Je crois que pour des Russes aujourd'hui, tuer des Ukrainiens qui sont des cousins des Russes, même s'il y a une forte identité nationale russe, c'est un traumatisme beaucoup plus fort. D'où là d'ailleurs la propagande sur la dénazification. On pourrait essayer de dire c'est pas les Ukrainiens, on les aime bien, mais là il y a quelques nazis qui se sont emparés du pays. Mais cette propagande, elle ne tiendra qu'un temps.
Vous êtes d'accord, Pauline?
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que déjà l'opinion publique est extrêmement importante, donc il fallait absolument couper toutes les sources d'informations qui parvenaient en Russie, de façon, dès le début du conflit, à éviter que la population effectivement se mobilise ou s'intéresse de quelque manière que ce soit. Mais c'est effectivement ce qui est très particulier avec cette guerre, c'est qu'elle s'est doublée d'emblée d'une guerre de l'image. Enfin, il y a eu toute cette propagande en amont du 24 février sur la frontière, sur la ligne en tout cas. Et puis, ce besoin d'empêcher l'information de parvenir à la population et de faire en sorte, enfin, de couper, d'éradiquer complètement le journalisme du pays, ce qui a été fait de façon ultra brutale avec les coupures de sites internet. Et c'est très curieux parce que on a réussi à Reporters sans frontières à établir des sites miroirs, des plus grands sites bloqués de façon à faire parvenir sur d'autres sites l'information en Russie. On l'a fait d'ailleurs aussi pour la Deutsche Welle, pour la BBC en russe, pour RFI également. On avait commencé avec un grand site qui est Medusa, donc pour continuer d'apporter cette information. Mais finalement, ça a été compris tout de suite, une guerre de propagande, ça commence par couper tous les robinets d'information et empêcher la population de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, chez les cousins ukrainiens, c'est-à-dire tout près.
Merci beaucoup, Pauline Adasmevel, d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Reporters sans frontières. Merci beaucoup, Jean-Marie Guéhenno, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU chargé du maintien de la paix. Et je rappelle votre livre publié en septembre dernier, Le premier 21e siècle de la globalisation à l'émiettement du monde. C'était publié chez Flammarion, pardon d'avoir écorché le titre d'un ouvrage si sérieux. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. Une honte, un fiasco à la une des quotidiens français, un témoignage en première page du quotidien britannique le Daily Mirror. Les policiers anti-émeute ont gazé mon fils de 9 ans. Et à chaque fois la même question, comment a-t-on pu en arriver là lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid? Récit d'une soirée chaotique avec vous, Mathieu.
Liverpool-Real, une finale de rêve, Ligue des Champions, événement majeur du calendrier sportif. Et aujourd'hui, la France est la risée du monde du foot. La soirée de finale était un fiasco. Et pourtant, tout démarrait bien.
Merci à tous les deux. Merci.
Dans nos gares et aéroports, des dizaines de milliers de supporters de Liverpool ou de Madrid affluaient depuis le début du week-end, ravis d'assister à cette affiche de rêve.
Paris est une ville accueillante. C'est une ville absolument fabuleuse. Merci Paris, merci Paris.
Samedi, en fin d'après-midi, ces mêmes supporters ont commencé à se masser aux alentours du Stade de France à Saint-Denis, arrivée rendue compliquée déjà par une ligne de transport en grève, des supporters munis pour certains de billets papier.
Liverpool, le club, a demandé à l'UEFA de pouvoir émettre des billets en papier, ce qui ne se fait plus.
Le gouvernement parle de fraude massive de 30 à 40 000 faux billets chez les supporters, ce qui explique aussi que la foule ait été si compacte dans un si petit espace, des supporters qui avaient parfois déboursé des fortunes.
L'organisation, c'est un vrai bordel. Désolé pour les mots, mais c'est un bordel.
C'était ma possession la plus précieuse. Je l'ai protégée de ma vie toute la journée. Maintenant, c'est un bout de papier sans valeur.
Des faux billets, mais aussi une forme de légèreté dans le filtrage des spectateurs à l'arrivée au stade. On va y revenir. Certains supporters ou même certains habitants des quartiers alentours ont voulu forcer leur chance pour entrer dans le stade, conduisant les forces de l'ordre à utiliser du gaz lacrymogène pour contenir et repousser la foule.
No reason why we're being tear gassed.
Never gas. I was hit on the floor. They were kicking me. They ripped my t-shirt. No
trouble. Les supporters n'ont rien fait et on nous traite comme des animaux.
On a même vu ces images de fraude aux barrières, aux tourniquets, parfois sous les yeux même des stadiers chargés de contrôler les entrées. Certains se sont même ouvertement réjouis d'avoir pu assister au match sans billets.
S'ils sont pas pris sur rien du tout, ils rentrent à un match. Les gens sont achetés 5000, 6000 pour voir Granat, oui.
D'autres n'ont pas eu cette chance, derrière les grilles, compactées, coincées, parfois avec des billets, pourtant, tandis que la situation continuait de dégénérer à l'extérieur. Des supporters frustrés et exposés à des habitants des quartiers alentours venus commettre des vols ou en découdre.
C'est une honte. J'ai 53 ans et je vais devoir rentrer chez moi, expliquer à ma famille que j'ai été tabassé par une bande de voyous. Moi, je ne reviendrai plus jamais à Paris après ça.
Certains billets valides n'ont pas pu être utilisés, en témoignent ces sièges vides pendant la rencontre, un match au sommet aux 400 millions de téléspectateurs, dont le coup d'envoi a dû être décalé de 36 minutes.
Pour l'instant, le grand écran du Stade de France vous annonce que le coup d'envoi de la finale a au moins un quart d'heure de retard, le temps que tout se calme à l'extérieur et que tout le monde puisse rentrer à l'intérieur.
En fin de soirée, Gérald Darmanin a tweeté que les responsables étaient les milliers de supporters, entre guillemets, supporters munis de faux billets ou sans billets, alors que dès le début de la pagaille, le rôle de la France comme organisateur d'événements mondiaux a été questionné.
Je suis très engagée pour optimiser tout ce qui doit l'être en perspective de la Coupe du Monde de rugby de 2023 et des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Ce soir-là, une fan zone pour supporters de Liverpool était installée, place de la Nation à Paris, et là aussi des débordements et des affrontements avec la police. Place de la Nation, c'est surtout la propreté qui a interpellé. Le lendemain matin, les riverains ont découvert une mer de déchets, du plastique et des bouteilles de verre tout au long de la fan zone en question.
David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Pierre Barthélémy, avocat de plusieurs groupes de supporters français, membre du conseil d'administration de l'association Football Supporters Europe. Vous étiez présent samedi soir au Stade de France, tout comme Mohamed. On parle de fiasco, mais ce qu'on ressent en voyant ces images et ce que vous avez peut-être pensé samedi soir tous les deux, c'est qu'on a frôlé la catastrophe. C'est surtout le soulagement au lendemain de cette soirée, qu'il n'y ait pas eu de blessés, voire de mort.
Les deux, mais effectivement, on a frôlé un drame bien plus important et qui, heureusement, a été évité grâce à la décision de la police d'abandonner un premier pré-filtrage qui servait de point de congestion et qui aurait pu conduire à un effet d'écrasement. Donc la police a été obligée de renoncer à ce premier filtrage. Heureusement, malheureusement, on en est arrivé à prendre cette décision, mais heureusement, on a pris cette décision. Mais oui, on s'inquiète, on parle de fiasco, il faut parler d'échecs organisationnels. On a très mal géré les flux de supporters à la sortie du RER.
Dès la sortie du RER, en fait, ça s'est passé là.
Exactement, c'est le péché originel et c'est là que tout est devenu irrécupérable. C'est-à-dire qu'on n'a pas orienté les supporters, il n'y avait aucun panneau, aucun stadier, aucun personnel. Et donc, ils sont tous orientés sur une seule entrée, parmi la dizaine d'entrées, et la plus étroite. Et jamais personne ne leur expliquait qu'à 150 mètres autour, il y avait d'autres accès beaucoup plus larges, notamment ceux du RERB que personne n'a emprunté parce qu'on pensait qu'il était en grève. Et donc tous les supporters se sont agglutinés sur une même entrée qui ne pouvait pas assumer un tel flux et qui est devenue une zone dangereuse. Et malheureusement...
C'est plutôt un fiasco d'information avant tout, enfin d'organisation,
d'orientation,
j'imagine.
D'orientation.
Qui aurait dû être assuré par qui? Par les forces de l'ordre?
C'est plutôt le rôle de l'organisateur, c'est-à-dire ici la Fédération française de football qui avait délégation de l'UEFA, mais c'est un point qui aurait dû être traité en réunion préparatoire entre les autorités et les organisateurs et qui aurait dû être anticipé. Et malheureusement, c'est ce défaut organisationnel qui a conduit donc à l'abandon du premier filtrage et cet abandon du premier filtrage a conduit à l'arrivée massive de personnes sans billets autour du stade et c'est là que c'est devenu beaucoup plus complexe à gérer pour les forces de l'ordre qui sont retrouvées sur une situation de trouble à l'ordre public.
David Lebars, les forces de l'ordre ont agi comme il le fallait hier soir ?
Écoutez, moi, ce qui vient d'être dit est essentiel. Quand vous avez un point de contrôle sur lequel il y a environ 15 à 20 000 spectateurs qui n'est pas prévu pour en recueillir autant et que ces spectateurs commencent à pousser, commencent à se sentir mal, moi, je salue la décision de celles ou ceux qui ont décidé de laisser passer parce qu'il y a un moment, c'est priorité à l'humain et peu importe si ensuite les personnes sont passées. C'est ensuite qu'il faut voir ce qui s'est passé. Ça, c'est effectivement le premier événement. Pourquoi elles sont là, ces personnes-là? Parce qu'elles arrivent par le RERD, parce que ça a été dit, le RERB était en grève. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que la gestion d'un match de football, d'un service d'ordre d'un match de football, c'est une alchimie avec plusieurs partenaires. Il y a l'organisateur, il y a les forces de l'ordre, il y a les services de sécurité privée, il y a les stadiers, il y a les supporters. Et toute cette alchimie fait que s'il y a un élément défaillant, le transporteur, j'ai oublié, vous vous retrouvez avec des difficultés. Donc ça, c'est la première cause, je dirais, du fiasco.
Le mot alchimie avec les images qu'on vient de voir hier...
Ça, je vous confirme qu'hier, ouais, ce n'est pas une réussite. Pas, ouais. Mais simplement, il faut pointer du doigt ce qui ne va pas. Une fois que la foule est rentrée à cet endroit-là, quel type de foule est rentrée? Vous avez des supporters qui ont des billets, vous avez qui n'ont pas de billets, vous en avez qui sont victimes de faux billets aussi, parce qu'il y a des victimes, il y a des gens qui ont acheté des billets qui ont été escroqués. Vous avez également des voyous, il faut dire les choses, deux types de voyous, quelques voyous qui sont des quartiers environnants qui n'avaient qu'une envie, c'était de rentrer dans le stade, et c'est ceux qu'on a vu escalader les grilles. Vous avez d'autres voyous, il faut aussi le dire, qui sont des gens qui sont dans le secteur, qui traînent, qui sont des sans-papiers, qui sont des étrangers en situation irrégulière, qui vivent du vol et du vol à la tire, qui s'en sont pris aux spectateurs, et tout ça a donné le désordre et le chaos qu'on a vu dans les images.
Il y a une image aussi qui a impressionné les spectateurs, ce sont ces images de policiers, la police qui va intervenir. Un supporter de Liverpool, Daniel Austin, a témoigné auprès de Louis Amar.
Le témoignage, obtenu par Louis Amar, un supporter anglais.
Une foule énorme et de plus en plus dangereuse. J'ai vu des femmes frappées avec des boucliers par des policiers. J'ai vu des enfants avec des larmes dans ses yeux à cause des effets de gaz. Il y avait des gens qui sont devenus malades, c'était impossible à bouger. Donc on a dû attendre, regardant un homme âgé avoir une crise de panique. C'était juste horrible, vraiment c'est un des pires nuits de ma vie.
David Le Barsan et Elisabeth évoquaient tout à l'heure la une du Daily Mail. J'ai vu ces images aussi samedi soir. La police française n'a-t-elle pas eu la main lourde devant le Stade de France samedi soir?
Écoutez, on peut débattre de tout. J'ai vu des images qui peuvent moi-même me choquer. Et puis après, on peut regarder la gestion de l'ensemble. Comment la police française repousse une foule d'un endroit à un autre quand elle a l'ordre de la repousser? C'est, entre autres, avec la technique du gaz lacrymogène, qui est une des techniques, je dirais, les moins impactantes en termes de blessés. D'ailleurs, il faut regarder le bilan. Le fiasco, c'est une chose, il n'y a pas de blessés graves. Comment font les Britanniques, dont certains d'ailleurs donnent des leçons à la France? Les Britanniques, contrairement à ce qu'ils disent, ils ont des techniques qui sont elles-mêmes extrêmement dangereuses puisqu'elles chargent à cheval et elles utilisent les matraques. Est-ce qu'on serait satisfait de voir la police française charger à cheval pour disloquer une foule? Donc, moi, je ne vous dis pas que c'est bien quand on utilise la force, mais il faut toujours se rappeler d'une chose, c'est quand une foule n'est pas au bon endroit et que les ordres sont donnés pour la repousser d'un endroit où elle n'a pas le droit d'être à un autre, il y a l'utilisation de gaz lacrymogène. Moi, je suis navré de voir des enfants ou des gens qui avaient des billets qui ont pris du gaz lacrymogène, mais c'est certainement le moyen intermédiaire qui fait le moins de dégâts sur l'humain. Et encore une fois, même s'il ne faut pas s'en satisfaire, c'est une technique.
Ce n'est pas efficace, les charges à cheval? Je parle sans matraque et sans forcément donner des coups, mais moi, j'ai déjà assisté à ça, des chevaux qui avancent vers vous, c'est impressionnant. La foule a plutôt tendance à reculer, à s'espacer. C'est pas une technique. Je sais que c'est pas très employé en France, mais c'est pas efficace, ça.
Alors c'est très efficace parce que ça fait très peur. On dit souvent d'ailleurs qu'un cheval, ça correspond à peu près à une quinzaine de policiers. Ouais. Donc vous mettez 10 chevaux en rang pour charger, ça fait peur. Ça fait peur à ceux qui ont conscience qu'ils sont dans l'illégalité, qui vont obtempérer à cette peur. Et puis à ceux qui vont résister. Et le contact du cheval sur la foule, ça fait des blessés. Et les Britanniques ont aussi ce type de dégâts. Je rappellerai aussi que sur les leçons, et il faut toujours être très prudent, un service d'ordre qui ne se passe pas bien, ça crée beaucoup de débats. Mais les Britanniques eux-mêmes ont connu Wembley sur l'Euro 2021. On a des images d'ailleurs qui sont parfaitement visibles sur les réseaux sociaux où on voit des bagarres générales.
Italie-Angleterre.
Voilà, Italie-Angleterre. Quand un match dégénère, il faut d'abord se rappeler que les fautifs, c'est ceux qui déclenchent les violences, c'est pas les forces de l'ordre. Après, on peut critiquer la façon dont ça a été géré, mais il faut toujours se rappeler de qui a commencé à créer le désordre. Et ce désordre-là, on a essayé de le lister, il est assez pluriel.
Oui, il est pluriel et c'est pas dû aux supporters de Liverpool, comme l'a tweeté un peu trop rapidement le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui les a mis en cause samedi soir, il était 23h45, en disant que ces débordements étaient liés aux supporters de Liverpool, qui certes, pour certains, avaient des faux billets, mais qui globalement ont une attitude presque exemplaire, en tout cas en gardant leur sang-froid lorsqu'ils étaient derrière les grilles du Stade de France.
C'est un point très important à souligner. Ils ont gardé un calme incroyable pendant des heures d'attente, de piétinement, d'écrasement. Même à la fin, lorsqu'ils étaient contre les grilles et qu'il y avait des interventions policières pour évacuer les gens sans billets du parvis, ils restaient collés aux grilles malgré le gaz, malgré des jeunes aussi qui s'en prenaient à eux. Ils ont gardé un calme exemplaire et qu'on peut comprendre d'une part par le fait qu'ils voulaient rentrer au stade, donc ils n'allaient pas se mettre à risque, mais surtout parce que c'est les supporters d'un club qui a connu en 1989 Hillsborough, où des défaillances organisationnelles ont conduit au décès de 97 supporters.
Qui ont été écrasés contre le grillage du stade de Sheffield, ou bousculés.
Exactement, et donc du coup, pendant 30 ans, on a accusé les supporters, et puis un rapport parlementaire récent au Royaume-Uni a démontré que c'était une responsabilité organisationnelle. Il y a eu des excuses nationales envers les supporters, mais donc c'est un groupe de supporters, enfin c'est un ensemble de supporters qui ont ça culturellement marqué en eux. Ils n'ont surtout pas voulu, surtout à l'étranger, répéter le moindre comportement qui pourrait justifier une intervention plus lourde, et donc ils ont été exemplaires.
30 000 à 40 000 supporters de Liverpool se sont retrouvés au Stade de France, soit avec des faux billets, soit sans billets. Ce sont des chiffres avancés par le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'est considérable, c'est-à-dire c'est quasiment la moitié du Stade de France qui arrivait muni de faux billets. Ça vous paraît possible, vraisemblable? Et comment est-ce qu'on en est arrivé là?
C'est un chiffre qui n'est pas sourcé et qui est très fantaisiste. Très fantaisiste, d'ailleurs, dans le détail ensuite que donne le ministre, il dit 80 000 personnes venues par transport en commun, 15 000 venues par autocar. Donc on est sur 95 000, on n'est pas sur 120 000, on n'est pas sur 80 plus 40. Et sur ces 95 000, il faut aussi voir qu'il y a toutes les personnes qui sont rendues à la fan zone des supporters du Real Madrid, qui est juste derrière le stade, donc où le match était diffusé pour les supporters du Real Madrid.
Avec 7 000 personnes.
Donc on est sur beaucoup moins que 30 ou 40 000. En revanche, le chiffre de 30 ou 40 000 correspond au nombre de supporters de Liverpool sans billets qui sont allés voir le match à la fan zone, cours de Vincennes, place de la Nation. Donc, il y a une confusion dans ces chiffres. Et ce qui est un point important, c'est que la justice, par exemple, a communiqué en disant qu'il n'y avait eu aucune garde à vue pour faux billets. On a vu toutes les personnes sur place qui avons bien suivi les flux. Nous n'avons constaté aucun reflux massif de supporters vers le RERD ou le métro pour rentrer sur Paris. Et on n'a vu personne à la fin du match, des groupements de supporters de Liverpool tout autour. C'est-à-dire que, selon cette théorie, on aurait 30 à 40 000 personnes qui se seraient évanouies soudainement autour de 20h30, 21h. Donc, il y a eu des faux billets, on l'a constaté.
Oui, la justice ouvre une enquête, d'ailleurs.
Il y a eu des fausses accréditations, on les a constatées. Mais on est très, très, très loin de 30 à 40 000 supporters de Liverpool.
David Lebas, sur ces faux billets, sur ce trafic qui serait industriel si on considérait que 30 000 à 40 000 supporters de Liverpool auraient des faux billets?
Très sincèrement, je ne vois pas qui un jour pourra donner le vrai chiffre. Si déjà des gens sont restés à l'extérieur du stade et n'ont même pas pu scanner leurs billets, comment voulez-vous savoir quel est le chiffre exact? Moi, je crois qu'effectivement, il y a des confusions un peu globales avec notamment les Britanniques, dont on sait qu'ils sont venus en masse, notamment pour aller dans la fan zone, tout en n'ayant pas de billets. Il y en a évidemment une partie qui a dû tenter sa chance pour aller acheter des billets ou en trouver sur le marché noir. C'est un classique et de toute façon, on connaît cette pratique. Les Anglais ont débarqué plus facilement en France parce que la finale est près de chez eux qu'ils ne l'auraient fait à Saint-Pétersbourg. Et on a eu largement le temps d'anticiper cela. Donc je vous dis, c'est une conjonction d'événements qui fait que, moi, là où je suis très gêné, c'est qu'en tant que policier, il faut prendre notre part, parce que d'abord, on va tirer les leçons de ce qui ne va pas pour pas que ça se reproduise pour les matchs d'après. Mais on voit bien que tout ce qui s'est passé l'autre soir, ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est que du côté de l'extrême droite, on accuse les jeunes de banlieue. Du côté de l'extrême gauche, on accuse la police. Du côté politique, on se renvoie la balle entre gouvernements britanniques et français. Et au fond, c'est malheureusement un concours de circonstances qui a abouti à des défaillances assez importantes. Il faut juste retenir qu'il n'y a pas de blessés graves. C'est quand même l'élément important. Il y a eu un match de foot. Le reste, il faut en tirer les conclusions. Moi, j'ai été commissaire en Seine-Saint-Denis, vous le savez. J'ai géré les 7 matchs de l'Euro 2016. Ils se sont tous très bien passés. Quand le service...
On aurait dû vous nommer.
Oui, mais je ne dis pas que c'est grâce à moi, parce qu'on était très nombreux sur le dispositif. Et il y a sans doute des leçons à tirer sur la façon dont on gère un dispositif quand on sait les difficultés qu'il y a autour. Il ne faut pas non plus se mentir. La Seine-Saint-Denis, c'est une zone difficile. Il faut la gérer.
Justement, pour mieux comprendre, Mohamed, vous êtes retourné aujourd'hui sur place.
Oui, pour illustrer ces multiples dysfonctionnements et surtout pour rester très didactique, on a décidé de revenir à Saint-Denis cet après-midi. Alors, vous découvrez à l'écran les trois points de tension. Le premier, à la gare RERD, Saint-Denis Stade de France. Le second, dans le tunnel qui permettait d'accéder à l'enceinte. Et le dernier, sur le parvis du Stade de France. On a suivi exactement le même trajet que celui effectué samedi soir par des milliers de supporters de Liverpool avec le maire de la ville, Mathieu Hanotin. Monsieur le maire, la première grosse erreur qui a eu lieu sur la gestion du match de samedi, c'est ici, devant cette station RERD.
Écoutez, il y avait une grève samedi et c'est vrai que usuellement, c'est la plus petite station. On a eu 36 000 personnes qui sont arrivées par ici et seulement 6-7 000 qui sont arrivés côté RERB.
Quand on est arrivé ici samedi soir, les supporters de Liverpool ne savaient même pas où était le Stade de France en fait. C'est assez déstabilisant. L'UEFA gère l'un des plus grands événements au monde et on voit juste ces petits panneaux stade au feu à gauche.
Clairement, ce n'est pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre. Effectivement, une signalétique spécifique pour une finale de Champions League.
C'est ici que les problèmes ont commencé. 36 000 personnes qui arrivent par cette rue Jean-Philippe Rameau, qui est assez grande, pour finir juste là, dans ce tunnel qui a entraîné les premiers mouvements de foule qu'on a vus aux abords du Stade de France.
Et on est sur un problème de conception originelle du stade. C'est une des faiblesses, cet accès à cet endroit-là.
On est arrivé au premier point de filtrage. Alors là, vraiment, on est quasiment collé au Stade de France. Certains expliquaient que le périmètre de sécurité, en tout cas ce point de filtrage, n'était pas assez éloigné du stade pour permettre en tout cas l'éloignement de ces gens qui n'avaient pas de billets. Vous partagez ce point de vue ?
La problématique à laquelle on a été confronté, c'est que quelqu'un qui arrive ici, qui n'a pas de billet, qui se fait refouler, quand il y en a 10, ça va. Quand il y en a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, en fait, imaginez 10 000 personnes derrière. Ils restent sur place, le problème se compresse, ça pousse dans tous les sens. Donc là, on est ici clairement sur un point de défaillance identifié.
Il y a eu quelques mouvements de foule ici aussi. Et c'est là où on a assisté à ces supporters qui voulaient pousser pour rentrer dans le stade.
Ce qui fait déborder le vase, in fine, c'est ça. C'est les tourniquets bloqués où là, à la fin, ça n'arrive plus à rentrer. C'est ce qui fait qu'à 21h, il n'y a que la moitié des Anglais qui sont rentrés. Et ça, c'est vraiment dû au faux billet. Il ne faut pas se raconter de bêtises. Moi, honnêtement, je ne sais pas combien il y en avait, mais il y en avait énormément.
David Lebars, dans le rapport fourni par la préfecture de police, par Didier Lallement, rendu au ministre d'Intérieur Gérald Darmanin, il exprime des besoins qui n'étaient pas suffisants sur ce match, notamment en termes d'unité mobile des forces de l'ordre. Vous partagez ce point de vue ? La police était en sous-effectif samedi soir ?
Je vais laisser ces propos à Didier Lallement. Il y aura peut-être une querelle avec son ministre de tutelle, mais vous savez, en France, il y a d'autres événements. Donc, à un moment, le préfet de police, quand il demande un nombre de forces, il n'est pas toujours satisfait dans sa demande, parce qu'il y a d'autres événements en France. Regardez ce week-end, il y a eu un match Saint-Étienne-Auxerre. Ça s'est très mal fini, on n'en parle pas beaucoup. Il faut des forces pour d'autres collègues dans d'autres villes. Souvent, Paris est consommateur de forces. Est-ce qu'il n'y en a pas eu suffisamment ? Je ne serais pas en mesure de vous le certifier sur le dispositif classique DOPC, c'est-à-dire la gestion des foules. Moi, je crois que c'est plutôt ce qui a pêché. C'est sur le dispositif périphérique, celui que je connais bien, que je gérais à l'époque, qui est celui qu'on appelle anti-crime, qui vient aux abords du dispositif principal chasser les délinquants. C'est-à-dire que ces gens-là qui viennent et qui prennent les touristes comme des proies, il faut absolument les repérer en amont et il faut leur mener la guerre au sens pénal, les interpeller. C'est sans doute là où on a, je dirais, le plus terni l'image de la France, parce que des supporters britanniques qui repartent sans rien et qui se sont fait dépouiller, certains se sont même fait voler leurs billets, ça c'est très dur à expliquer, c'est très dur à pardonner, et c'est sans doute là où le dispositif policier a peut-être été, je dirais, pas suffisamment garni, mais encore une fois, il faut regarder tout ça, et ça appartient au ministre et au préfet de police de le dire.
Un mot pour conclure, Pierre Barthélémy, avant d'en venir au 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Alors, on peut signaler que l'organisation de la fan zone s'est très bien passée. Ça a été un vrai succès. Police, FFF et supporters de Liverpool. Et plus largement, rappeler le comportement vraiment exemplaire des supporters de Liverpool et qu'on pourrait quand même attendre de la part du gouvernement une communication déjà un peu plus sympathique, dans le sens un peu plus empathique, un peu plus plus de compassion, et puis des excuses pour les avoir accusés d'abord d'avoir été en retard, ce qui n'était pas le cas, et puis ensuite d'avoir été à l'origine de ces débordements alors qu'ils ont eu un comportement vraiment irréprochable. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce raté prend une telle ampleur internationale, c'est que ça devient une crise diplomatique parce que on fait porter le chapeau sur les boucs émissaires anglais alors que manifestement, ce n'était pas forcément là qu'était le problème.
Merci beaucoup Pierre Barthélémy, avocat de plusieurs groupes de supporters français, membre du conseil d'administration de l'association Football Supporters Europe, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Oui, c'est très long, hein, votre CV. Ça prend du temps au 5 sur 5 de Mathieu Béliard, hein, c'est pas bien. C'est une image qui nous a marqué tout le week-end. Cet orque bloqué dans la Seine.
Oui, depuis plusieurs semaines, depuis le mois d'avril, même une orque qui nageait dans la Seine, entre la Manche, l'embouchure du fleuve, et à une centaine de kilomètres dans les terres de Seine-Maritime. Un cétacé de plus de 4 mètres de long, mammifère marin, qui, vous le savez, n'a rien à faire dans la Seine normalement, dans un fleuve d'eau douce, je le rappelle, et qui forcément a surpris les habitants.
Nous l'avons vue, elle a fait tout le trajet là et elle a fait un saut ici. Donc on l'a aperçue. Mais du coup, on sait qu'elle fait des allers-retours entre ici et Duclair.
C'est étonnant parce que c'est pas son milieu naturel. Elle semble perdue quand même dans un milieu qui n'est pas le sien.
Je pense que c'est une super occasion de faire ce genre d'observation, mais ça interroge énormément sur sa présence, pourquoi elle est là.
C'est quand même un animal en plus qui est mal en point, qui a pas mal de blessures, qui a les longs qui est rabaissé, donc mauvaise santé.
Les orques vivent normalement en mer, en meute. Ce spécimen était vraisemblablement malade. Quoi qu'il en soit, c'est tout un dispositif technique, maritime et aérien qui a été mis en œuvre pour essayer de l'aider à retourner en mer.
Pendant toute la durée de l'opération, un drone équipé de caméras thermiques surveillera l'état de santé de l'animal. Depuis un bateau, des stimuli sonores seront diffusés pour l'attirer et tenter de lui faire remonter le fleuve.
L'orque était malade, égaré et affaibli. Encore une fois, ça ne vit pas en eau douce, les orques. Alors la décision avait été prise de l'euthanasier pour mettre fin à ses souffrances. Mais avant cela, nous avons appris sa mort ce matin. Ce sont les membres de l'ONG Sea Shepherd qui ont retrouvé le cadavre de l'animal. Emo Touré a recueilli leur témoignage.
Dès qu'on a localisé l'orque ce matin, on a prévenu les autorités pour qu'ils puissent déclencher le dispositif et venir récupérer le cadavre. On est resté à proximité pour s'assurer qu'il ne soit pas abîmé et que l'autopsie puisse avoir lieu, parce que c'est très important d'avoir les réponses. Pourquoi cette orque s'est retrouvée dans la Seine quand elle est passée par l'estuaire du Havre il y a une quinzaine de jours? Est-ce qu'elle est tombée malade dans la Seine? Est-ce qu'elle était déjà malade en mer? Est-ce qu'elle a été désorientée? On sait qu'il y a énormément de bruit dû aux chantiers d'usines éoliennes qui sont en construction à Courseulles-sur-Mer. Donc tout ça, ça va être possible de déterminer grâce à une autopsie. Donc voilà, c'était très important pour nous que ce cadavre ne soit pas abîmé.
Camille Schmitt a contacté un spécialiste, Éric de Metz, éthologue. Pour lui, on aurait pu faire mieux pour sauver cet orque. La France est inexpérimentée en la matière.
Il est évident qu'à mon avis, il fallait réagir très très vite. Et c'est ça que je pense qu'on n'a pas... C'est pas qu'on n'ait pas su le faire, mais c'est qu'on n'est pas adapté encore à ce genre de situation nouvelle. Et on voit qu'en France, on a encore ce... un problème de connaissance encore du cétacé, et surtout un problème de connaissance de sa psychologie. Cette expérience, je pense, elle va nous servir dans le futur pour mieux comprendre les prochains sauvetages, puisque par rapport à la Nouvelle-Zélande ou à l'Australie, on est très en retard.
Voilà pour Éric de Metz, éthologue dans le sud de la France.
Mais que fait la police au musée du Louvre? Un homme a voulu entarter la Joconde.
Et vous voyez directement le résultat. Bah oui, parce que c'est avant tout une vitre qui est salie à la Chantilly. Évidemment, Mona Lisa est protégée et n'est pas accessible au premier fou qui s'en prendrait à l'œuvre de Vinci. L'auteur de ce geste, le vandale en question, c'est un homme qui portait une perruque et qui était assis en fauteuil roulant. Il en a sauté et tenté de briser cette vitre avant de jeter son gâteau à la crème et quelques roses par terre. Appréhendé par le service de sécurité du musée, il a revendiqué son geste.
C'est la terre. Il y a des gens qui sont en train de détruire la terre. Pensez-y. Les artistes, bien vous dit, pensez à la terre. Tous les artistes, pensez à la terre. C'est pour ça que j'ai fait ça. Pensez à la planète.
Une enquête est ouverte. Le vandale a été admis à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. La crème chantilly a bien sûr été nettoyée. C'est la quatrième fois qu'on tente de dégrader la Joconde. Mona Lisa avait déjà été visée par un spray rouge, une pierre et une tasse de thé.
Voilà, ah oui, elle a du succès, la Joconde entartée. Hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de...
Ceux qui étaient là à ce moment-là n'ont pas loupé l'événement, évidemment.
un record pour
terminer, oui. Terminer. Un record du monde de saut en parachute en tandem. La personne la plus âgée, il s'agit d'une Suédoise de 103 ans qui s'est jetée dans le vide au sud-ouest de Stockholm. La dame en question, Ruth Larsson, elle avait sa famille, des amis sur place à l'aérodrome. Le record a été homologué par un représentant du livre Guinness qui était présent aussi. Évidemment, ce record était filmé. Là, vous pouvez en voir un extrait. Après un atterrissage tout en douceur, des assistants se sont précipités avec son déambulateur pour l'aider à se relever. Ruth Larsson a dit sa joie aux caméras après son saut qu'elle a raconté.
C'est incroyable.
Det var underbart att få göra det här som jag har tänkt länge på. Det var vad som hände idag. Det var vad jag räknat med.
Alors précisément, Ruth Larsson a 103 ans et 259 jours, c'est un détail qui compte puisque le précédent record était détenu par une autre personne âgée de 103 ans et 181 jours. Ça se joue à peu de choses.
Bravo à Ruth Larsson, extraordinaire saut. J'aimerais en faire autant...
Demain.
Avant mes 103 ans. Oui, il est odieux. Merci beaucoup David Lebar d'être venu ce soir. Merci Pierre Barthélémy. Dans un instant, nos invités du dîner, Joe Wilfried Tsonga, on a été bouleversés par ses adieux Roland-Garros. Riyad Sattouf, dont on adore les cahiers d'Esther. Et Bruno Patino, qui fête les 30 ans d'Arte ce soir. Sur Arte, forcément. A tout de suite pour le dîner de cet après-midi. Sur France 5.